Radio Okapi. Grande interview.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'en va en guerre contre la corruption. Il a exprimé sa détermination et son engagement à lutter contre ce fléau qui gangrène toutes les catégories sociales du pays. Au cours de sa déclaration jeudi dernier, lors de la célébration de la dernière journée de lutte contre la corruption, Félix Tshisekedi a annoncé une série de mesures de répression et de prévention, notamment la création au sein de son cabinet d'un service spécialisé de coordination pour le changement des mentalités. Pendant ce temps, les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle sur le contentieux électoral continuent à susciter des protestations au sein de la classe politique et des dénonciations des cas de corruption des juges. Pour en parler, grande interview reçoit dans cette émission Julien Paloukou-Karongia, président national du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo AABC et membre du FCC. Produite avec le concours de Alain Irung et Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, cette émission vous est présentée par Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs des radios Okapi, bienvenue dans Grande Interview. Nous recevons dans ce numéro le gouverneur honoraire du Nord Kivu, président national du regroupement politique AABC, membre du FCC, Julien Paloukou. Avec lui, nous abordons la problématique de la lutte contre la corruption, la réforme de la Cour constitutionnelle, mais aussi les enjeux politiques de l'heure et la zone de la libre-échange. Julien Paloukou, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les hôtels à Radio Okapi.
Comment avez-vous perçu la position du chef de l'État face à la lutte contre la corruption en RDC?
Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'adresse du président de la République lorsque le monde entier célébrait la journée de lutte contre la corruption. Vous voyez vous-même à travers notre sigle, on dit Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo. Ça veut dire que nous nous inscrivons dans cette philosophie du président de la République qui voudrait effectivement que ces virus-là qui gangrènent la vie de la nation puissent disparaître de la mémoire des populations congolaises. Et vous avez eu à le constater par le passé, le président honoraire Kabila avait créé en son cabinet effectivement un département en charge de la lutte contre la corruption qui était piloté par le professeur Luzolo. Et à l'époque, il avait dit exactement qu'il y avait entre 10 et 15 milliards de dollars qui étaient volatilisés par an et qui pouvaient renforcer les budgets de l'État. Aujourd'hui, que le président de la République prend les bâtons de commandement de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, nous sommes heureux effectivement qu'il revienne sur cette question. Parce que les grands fléaux qui freine même le développement de ces pays, c'est la corruption. J'ai eu déjà à le faire quand j'étais gouverneur du Nord Kivu. J'ai créé un office de bonne gouvernance qu'on appelle OBLC, Office de bonne gouvernance de lutte contre la corruption en province du Nord Kivu, qui est piloté par un auditeur provincial. Et là, nous avons eu à recenser un ensemble de concepts qui sont utilisés pour signifier la corruption. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans des services, il y en a qui disent Madesuabana, il y en a qui disent passeport, il y en a qui... Donc il y a des termes qui sont utilisés ça et là pour camoufler la corruption alors qu'il s'agit nettement de la corruption. Mais pour moi, c'est que au-delà de la volonté de lutter contre la corruption, qu'il soit défini des actions concrètes et également assorti des sanctions. Quand on organisait l'atelier sur la réforme du système fiscal, j'avais dit que les jours où on apprendra qu'un ministre, qu'un directeur général, qu'un gouverneur, que parmi les autres personnalités, il y a quelqu'un qui a été jeté en prison parce qu'il est soupçonné de corruption, c'est le jour où le petit agent va changer.
Alors, il y a quelques jours, vous proposiez des réformes au sein de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui a motivé votre proposition?
Évidemment, ce sont ces genres de soupçons qui nous ont poussé avec d'autres Congolais à réfléchir. Parce qu'en fait, comme vous le savez, les lois humaines sont faites pour résoudre des problèmes dans la société. J'ai pu analyser, par exemple, la constitution de la RDC, la loi électorale, la loi sur l'organisation de la Cour constitutionnelle, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses à faire, même au niveau de la Constitution. J'avais d'ailleurs à la radio Okapi révélé une analyse comparative pour dire la France, depuis la 5e République en 1958, a déjà fait 24 révisions constitutionnelles. C'est-à-dire en 61 ans, la France a fait 24 révisions. Et si vous voyez, vous faites une moyenne mathématique, c'est que tous les 2 ans et demi ou 3 ans, la France faisait la révision constitutionnelle. Mais nous, notre constitution date de 2005. Nous sommes à 14 ans. Nous n'avons fait qu'une seule révision constitutionnelle en 2011. Donc ça veut dire que par rapport à la stabilité de la constitution, notre constitution est plus stable que la constitution française. Mais est-ce que doit-on dire que la stabilité de notre constitution est un facteur de développement? Pourquoi les autres ont révisé leur constitution? C'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des problèmes que la constitution n'arrivait pas à résoudre. Voilà pourquoi, moi, par exemple, au niveau de la Cour constitutionnelle, je conviens que ces arrêts ne soient pas susceptibles de recours, mais qu'à l'intérieur de cette Cour, il y ait une possibilité, effectivement, d'appel par usage du principe du double degré de juridiction. C'est-à-dire, partout, il est reconnu à tout citoyen d'interjeter appel lorsqu'une décision de justice est rendue. Et là, je me suis fondé sur ce qui se passe à la Cour pénale internationale. Je me dis, même à la Cour pénale internationale, où on rend la justice internationale, on a quand même admis qu'au sein de la Cour pénale internationale, il y ait des degrés de juridiction. C'est-à-dire, un premier degré où le premier juge apprécie, et un deuxième degré où les autres vérifient si la première appréciation était bonne. Et j'ai vu comment les arrêts de la Cour ont été rendus. Je me suis dit, nous partons des cas qui sont flagrants. Vous prenez Zongo dans l'espace équateur, où quelqu'un a 45 voix, il est déclaré par la Cour élu en invalidant quelqu'un qui a 2000 voix. La Cour, malheureusement, s'est apesantie sur ce qu'on appelle la rectification d'erreurs matérielles pour entrer dans les fonds, alors que l'erreur matérielle ne devait pas entrer dans les fonds, devait corriger plutôt l'erreur. Alors, c'est ce qui justifie aujourd'hui, ce qui me réconforte dans mes convictions pour dire, au lieu de laisser la Cour n'agir que lorsqu'il y a eu des marches, il faut plutôt qu'il y ait une chambre qui puisse vérifier. Et ça va permettre au premier juge qui va apprécier les contentieux de savoir qu'il y aura quand même une deuxième lecture.
Donc, à votre avis, ça va prévenir des cas de corruption à la haute cour?
Ça va prévenir les cas de corruption. Parce que, imaginez-vous que on maintienne cette décision, cette disposition constitutionnelle pour dire que les arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, ils sont opposables à tous, ils doivent être exécutés par toutes les administrations. Mais là-bas, tout le monde peut finalement dire une chèvre est devenue une vache, et il y a un arrêt qui est rendu pour dire non, cette chèvre est une vache. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne qui va donner le contraire. J'avais d'ailleurs fait une analyse quand je disais, attention, les arrêts de la Cour font partie de la jurisprudence. Or, vous savez, parmi les sources de droit, il y a la constitution, il y a les lois, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence, il y a la coutume, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à la loi. Alors, imaginez-vous que les arrêts de la Cour qui ont été rendus actuellement, qui apparemment sont contraires à la loi, deviennent une source de droit. Qu'est-ce qu'on va dire à l'université de Kinshasa et à toutes les universités par rapport à ça? Que diront les professeurs lorsque, par exemple, un étudiant va dire, mais monsieur le professeur, comment la Cour a accordé à quelqu'un dont le regroupement n'a pas atteint le seuil? Qu'est-ce que le professeur va dire?
Au lieu de ne voir que la Cour constitutionnelle, ne faudrait-il pas une réforme profonde de tous les systèmes judiciaires congolais?
Oui, exactement. Maintenant, il faut se poser la question si l'éclatement du système judiciaire congolais était utile. Parce qu'à l'époque de la Cour suprême de justice, vous vous rappelez, en 2011, il y a eu introduction des requêtes en rectification d'erreurs matérielles. Ces requêtes avaient été rejetées. Mais ce n'est que quand on a éclaté la Cour suprême, maintenant aujourd'hui, il y a la Cour constitutionnelle, il y a la Cour de cassation, il y a le Conseil d'État, que les choses commencent à apparaître aux yeux des gens comme si l'éclatement de la Cour suprême à l'époque constituait un problème. Voilà pourquoi moi j'ai jeté la réflexion. J'ai pas dit que j'ai raison. Mais j'ai dit, mais débattons de toutes ces questions-là pour savoir, eh bien, qui aura tort, qui aura raison à l'issue de ce débat-là.
<t'-> Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit Julien Paluku Kaongia, président national du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo AABC et membre du FCC. Avec lui, nous parlons à présent des désaccords au sein du FCC sur la répartition de postes. Alors, Monsieur Julien Paluku, comment analysez-vous la position de l'AFDCA face à l'élection prochaine du bureau définitif du Sénat?
Oui, d'abord, moi, je suis FCC décent. Il faut que l'opinion sache comment est né le FCC. Le FCC a été créé à la suite de toutes les mutations que la République démocratique du Congo a connues lorsque, à l'issue de toutes les négociations, d'abord du 18 octobre à la Cité de l'Union africaine qui a donné naissance au G18, ensuite à l'accord du 31 décembre qui a donné naissance à un nouveau gouvernement, c'est à la suite de tout ça qu'il y a un certain nombre d'opposants d'hier qui ont intégré effectivement la majorité présidentielle. Et vous comprenez que à ce moment-là, on ne pouvait plus parler de la majorité présidentielle parce qu'il y avait une partie de l'opposition qui avait rejoint cette majorité. C'est ce qui a motivé notre autorité à imaginer effectivement la création d'une plateforme qu'on a appelée Front commun pour le Congo, c'est-à-dire l'ancienne majorité présidentielle plus cette catégorie d'opposants. C'est comme ça qu'est né les FCC, avec des objectifs de gagner les élections. Nous les avons gagnés au niveau provincial, nous les avons gagnés au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous avons plus de 350 députés nationaux. Nous venons de les gagner au Sénat, avec autour de 90-91 sénateurs sur les 108, plus les sénateurs à vie. Alors, le seul échelon où le FCC n'a pas gagné les élections, c'est la présidence de la République. Et moi, j'ai toujours réfléchi en disant que même dans ce cas de figure, c'est une nouvelle expérience qu'il faut encourager. Maintenant, au sein du FCC, les gens ne sont pas patients. Et les gens ne sont pas patients parce que je considère qu'il y en a qui sont dans le FCC pour une compétition en vue d'obtenir des postes, pas pour une idéologie. Nous autres, nous sommes au FCC idéologiquement. C'est-à-dire, nous avons perdu la présidence de la République en 2018-2019, mais nous qui sommes en fait idéologiquement préparés pour ça, nous disons c'est une bataille que nous avons perdue. On n'a pas encore perdu toute la guerre parce qu'on a la majorité au niveau des assemblées provinciales, on a la majorité à l'Assemblée nationale, on a la majorité au Sénat. Au lieu de nous diviser entre nous, nous devrions nous resserrer les coudes pour dire vers où nous allons, cap vers 2023. Comment nous, notre famille, nous devons récupérer le pouvoir. Mais le récupérer le pouvoir, pour quoi faire? Parce que il ne faudrait pas aussi que nous pensions qu'on doit récupérer le pouvoir pour perpétuer des méthodes ou des attitudes qui ne rencontrent pas les attentes de la population. Donc moi, dans ma philosophie, je pense que ceux qui sont en train aujourd'hui de s'illustrer dans des déclarations « moi je quitte, moi j'entre, moi ceci », ce sont des gens qui ne sont pas patients, qui ne voient peut-être que les positionnements ou les postes. Mais moi je pense qu'au niveau du FCC, ce qui nous importe, c'est d'avoir une idéologie d'ensemble et de savoir qu'est-ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est le développement de ces pays.
Tout de même, la mise en œuvre de cette idéologie demande le concours de tous les regroupements qui composent le FCC. Mais du moment que les partenaires constatent que c'est un seul parti politique qui est privilégié, on se demande. C'est ce qui crée les remords au sein de votre famille politique.
Vous savez, nous avons mis en place notre charte. Et dans cette charte, comme dans tous les autres textes qui nous gouvernent, nous avons instituer des principes. Le principe, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura des possibilités de devoir attribuer des postes lorsque il en est question, mais ce n'est pas ça l'objectif, il faut d'abord, un, les poids politiques. Deux, c'est le principe de solidarité. Ce sont là les deux principes majeurs. Et il en était de même pour les tickets, effectivement, du Sénat, où on doit dessiner les tickets du Sénat par rapport aux poids politiques. Mais comme vous le savez, nous avons un chef de la famille politique, qui, après avoir cogité tout ce que nous voulons faire, eh bien, chaque famille a toujours un chef. On ne peut pas dire qu'on va naviguer comme ça à vue dans une famille où chacun va dire ce qu'il veut, ça connaît des orientations de la part de celui qui a la philosophie du groupe. Et au FCC, celui qui a la philosophie du groupe s'appelle Joseph Kabila Kabange. Donc, les nier, c'est donc ne pas être dans le FCC. Et moi, j'ai toujours dit, si le pays n'avance pas, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les acteurs politiques. Il y a beaucoup d'hypocrisie, les gens ne se disent pas la vérité, les gens se surveillent mutuellement, et c'est ainsi que quand quelqu'un trouve que ses intérêts tout de suite ne sont pas rencontrés, paf, allez, il prend la poudre d'escampette. Non, moi je ne suis pas de ce genre d'acteur politique. Dans ma famille politique, même s'il y a des problèmes, je ne peux pas quitter ma famille politique parce qu'il y a eu des problèmes. Au contraire, il faut que j'apporte ma contribution pour trouver des solutions à ces problèmes. Si on dit qu'il y a des partis politiques qui ont plus de postes que les autres, d'autres en ont moins, ce n'est pas pour moi une raison d'abandonner la famille. Il faut mener une lutte en interne pour dire, eh bien, mettons la carte sur table, voici les constats que nous faisons ensemble, mais corrigeons pour l'avenir. Parce que si on se met à quitter, revenir, entrer et sortir parce qu'on n'a pas eu un poste, c'est qu'on n'a pas d'idéologie politique. C'est que son idéologie est basée sur l'attribution des postes et non pas sur une philosophie qui permette au pays de se développer.
Entre-temps, dans un pays démocratique, le modèle de démocratie devait être intégré déjà au sein des familles politiques. Et qui dit démocratie dit la voix de la majorité. Est-ce qu'il faut réellement attendre l'avis de l'autorité morale au détriment de ce que pense la majorité de la famille politique?
C'est pourquoi nous avons une conférence des chefs de regroupement.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est la conférence des chefs de regroupement qui, au départ, nous sommes autour des 22 regroupements, sort des noms. Je me rappelle lorsque nous avons sorti les tickets du bureau de l'Assemblée nationale, c'était la même chose. C'était des noms que nous, chefs de regroupement, nous avons proposés. Même l'ABC, on sait de l'ABC, nous avons proposé des noms et c'est parmi les noms que nous avons proposés que la famille a retenu les nôtres. Et aujourd'hui, nous avons un membre de l'ABC qui est au bureau de l'Assemblée nationale, qui vient de l'Itouri. Mais il n'était pas seul sur la liste. Il y avait autant de gens de l'ABC, mais le choix est allé tomber sur lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait les tickets, pour ceux qui ne le savent pas, au-delà des critères politiques, on voit aussi la représentation territoriale. Comme le président, par exemple, vient de tel espace, vous devriez avoir le vice-président. Vous avez aussi donné le nom du même espace. Non, donnez-nous quelqu'un de notre espace. Alors peut-être que moi, Julien, j'avais déjà misé sur ce que je considérais comme un ami que je vais placer au bureau. Mais quand on me remet la fiche pour dire d'aller compléter autrement, de mettre quelqu'un dans notre espace, je risque d'être mécontent. Alors que le chef doit faire maintenant ce qu'on appelle l'arbitrage. Et donc pour moi, je considère que la démocratie chez nous ne constitue pas jusque-là un problème majeur. Les mécontentements ou les grincements des dents ou les conflits, pour moi qui suis de la dynamique de groupe, je sais qu'un groupe sans tension ni conflit, c'est un groupe qui n'existe pas. Donc, des conflits et des tensions montrent que le groupe est dynamique. Et la capacité pour les chefs de trouver des solutions à ces conflits-là, c'est ce qui fait de lui le leader du groupe.
Alors, faudrait-il une réorganisation du FCC en partant de contexte politique particulier que vous venez de décrire?
Oui, moi je pense que pour les FCC, il est vrai que nous avons passé le cap des élections. Et nous sommes en train de faire des évaluations. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, nous allons nous organiser pour replacer les pions, pour dire qui peut faire quoi par rapport à nos objectifs. Donc à un moment donné, lorsque toute cette machine va permettre à ce que l'on évacue progressivement les gens vers l'occupation de certaines responsabilités, eh bien, il va nécessiter l'organisation du FCC par rapport à l'incompatibilité qui aura été créée dans le déploiement de certains acteurs au sein de notre famille politique.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros Julien Paluku Kahongia, gouverneur honoraire du Nord Kivu pendant plus de 10 ans et président national du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo et membre du FCC. Avec lui, nous parlons à présent de la zone de libre-échange et de l'insécurité dans le Nord Kivu. Monsieur Julien Paluku, quelle perception avez-vous de la zone de libre-échange africaine?
Oui, j'ai suivi effectivement cette innovation des chefs d'État africains lorsqu'ils créent cette zone de libre-échange. Moi, j'encourage cette initiative. Pourquoi? Ça s'est passé partout en Europe. C'est l'intégration économique. Vous savez que lorsqu'on va supprimer, par exemple, les tarifs douaniers pour les produits, si vous pouvez le permettre, localement dans chaque pays, ça va permettre qu'il y ait beaucoup d'investisseurs. Vous imaginez, par exemple, l'Afrique est un marché de plus d'un milliard de consommateurs. Et dans ces 1 milliard de consommateurs, seule la République démocratique du Congo a autour de 90 millions. d'habitants. Ça veut dire, lorsque on va adopter définitivement cela, lorsque ça va entrer en vigueur, cette zone de libre-échange, ça va attirer beaucoup d'investisseurs dans les espaces où il y a une concentration démographique. Je donne l'exemple de la RDC. Lorsque nous avons ratifié cette zone de libre-échange, il y a des investisseurs qui produisaient chez eux certains éléments, qui ne vont plus les faire dans leur pays, mais qui vont s'établir chez nous. Mais il y a un débat autour de ça. Il y en a qui disent, mais si on supprime les tarifs douaniers, ça va avoir un impact sur les recettes. Moi, je dis non, pas nécessairement. Parce que lorsque vous évaluez le niveau des recettes qui sont engrangées par les trafics interafricains, vous trouverez qu'il n'est pas très volumineux là. Parce que les échanges internationaux se passent plus avec les pays autres qu'africains. Mais lorsque maintenant on va supprimer les tarifs douaniers, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons par exemple avoir autant d'investisseurs qui vont arriver dans notre pays pour produire localement, parce qu'ils savent que d'abord, un, ils ont des consommateurs en RDC, deux, ils peuvent avoir des consommateurs dans les pays voisins. Ils peuvent rapidement écouler les produits sans qu'ils soient sujets à beaucoup de taxations. Et là, l'impact que nous aurons, c'est au niveau par exemple de l'emploi que ça va générer. Lorsqu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont arriver, c'est autant d'emplois que ça va créer. Mais les impôts, tous les impôts sur les bénéfices que ces entreprises vont réaliser, vont compenser les recettes que nous devrions avoir au niveau des recettes douanières.
Alors ce projet n'est-il pas voué à l'échec quand on voit les hésitations des pays comme le Nigeria, qui est la plus grande économie africaine?
Oui, il est vrai que le Nigeria a hésité, mais le Nigeria est déjà d'accord avec la zone économique de libre-échange. Il a hésité parce qu'il croyait effectivement que ça va affecter ses recettes douanières, parce que lui, c'est parmi les pays industrialisés. Il croit que comme c'est un pays industrialisé, il ne sera pas évacué, il ne sera pas gagné, parce qu'on aura supprimé les tarifs douaniers sur toutes les exportations. Mais là, il faudra que le Nigeria ouvre ses marchés en dehors de l'Afrique. Il faudrait qu'il spécifie son économie par rapport à ce qui n'existe pas dans d'autres continents. Qu'est-ce qui dit que nous devons seulement nous consommer ce qui vient de l'Europe, ce qui vient de l'Asie, et non l'inverse? Pourquoi on ne peut pas créer des mécanismes pour que les Asiatiques consomment les produits africains?
Alors, zone de libre-échange, discussion ou réticence de certains Congolais par rapport au projet pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville?
Oui, c'est un grand débat, très politique, parce que d'abord, il y en a qui pensent que si on fait le projet pont-route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, ça va supprimer effectivement ou détruire l'économie de la province du Congo central, parce que tout simplement, le port de Matadi risque de disparaître. Mais nous devons plus nous intégrer dans une économie qui est mondialisée. Il ne faudrait pas que nous nous comportions seulement chacun selon sa province, chacun selon son espace sociologique, pour dire non, si moi on ne me développe pas ici, je n'aurai pas de bénéfices. Il faudrait plutôt que les Congolais réfléchissent par rapport à l'accroissement du budget de l'État. Vous savez, nous avons un budget minable, je l'appelle ainsi, souvent de 5, 6, 7 milliards. Mais en recette propre, lorsque vous l'examinez, c'est un budget de 4 milliards. Alors, les efforts des Congolais devront être déployés dans le sens de dire comment nous devons avoir un budget de 20 à 30 milliards. Si nous avons, par exemple, un budget de 30 milliards et qu'on dise on retient 40%, 40% de 30 milliards, c'est quand même 12 milliards de dollars qu'on devra affecter dans les provinces. Si on dit on doit retenir 10% de péréquation, les 10% de 40 milliards, ça fait autour de 4 milliards des péréquations pour financer les déséquilibres de développement dans les provinces. Donc, si nous accroissons notre budget, par exemple, à 30 à 40 milliards, ça va permettre de financer le développement dans chaque province. Et les petits débats autour de moi, il faut tel projet, parce que si ce projet n'existe pas, il y aura du chômage chez moi, tous ces débats vont disparaître. C'est parce que nous n'avons pas un budget qui nous permette d'affronter le problème de la RDC, que nous nous rabattons dans les débats sectoriels, chacun chez lui, et non pas de débats qui nous permettent de devoir penser développement de la RDC.
Alors nous tendons vers la fin de notre émission. Nous ne pouvons pas boucler notre émission sans parler de la situation du Nord Kivu, la province que vous avez dirigée pendant plus de 10 ans. Et votre province est toujours en proie de l'insécurité. Quelles solutions préconisez-vous pour une vraie paix dans le Nord Kivu?
Bon, d'abord, il n'y a pas de paix totale. Dans tous les pays du monde, on ne verra pas un seul État qui a dit qu'il a un taux de criminalité zéro. Mais néanmoins, il y a des espaces quand même où le taux de criminalité perdure. Moi, je crois que dans l'espace de l'Est, il y a eu beaucoup de ratés, notamment à la démobilisation. Nous avons, au niveau militaire, engrangé suffisamment de résultats, mais le cycle de violence a été alimenté par les programmes qu'on a appelés CONADER à l'époque, qu'on a appelé UPNDDR à l'époque, dont la réinsertion n'a pas rencontré vraiment les objectifs des différents programmes. Je vous donne l'exemple. J'ai été gouverneur, mais j'ai vu par exemple des démobilisés qui ont été retournés au Nord Kivu sans capacité d'être réellement réinsérés. Vous achetez une moto pour des démobilisés dont l'un habite un territoire, je prends Masisi, l'autre habite le territoire de Beni. Et alors, ils ont bénéficié d'une moto du programme de réinsertion. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils atterrissent sur l'aéroport de Goma, l'autre va aller à 400 km à Beni, l'autre doit aller à Masisi à 70 km. Et alors, le premier réflexe de ces deux démobilisés, c'est quoi? C'est de vendre la moto au plus bas prix, à 200-300 $. Et le soir, ils se retrouvent dans les cabarets, ils prennent la bière. Lorsque l'argent est fini, ils se voient, n'ont plus rien à voir. Qu'est-ce qui va suivre? Ils pensent à revenir à la case de départ. Donc, ce sont des programmes que moi, j'estime devoir bénéficier de l'attention du président de la République actuel pour qu'il y ait réellement un véritable DDR. C'est-à-dire concevoir dans la durée la réinsertion. Pour les occuper. Et là, j'avais donné des idées quand j'étais gouverneur. J'ai dit, par exemple, j'ai commencé le projet de pavage des routes à partir de la lave volcanique, avec des machines que nous avons achetées pour tailler la lave et paver nos routes. Si vous arrivez à Goma aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des routes asphaltées et des routes pavées, un peu comme à Bruxelles, un peu comme à Rome, parce que j'ai visité ces villes, c'est là où j'avais eu ces réflexes-là. Maintenant, on peut dire, on prend tous les démobilisés. On fait le pavage des routes. Ça va vous prendre peut-être 18 mois ou 24 mois. Le temps de tailler les routes, les pierres, le temps de poser les pierres, le temps de les ajuster, ça fait autant de temps que ces démobilisés feront sur la route et ça va les resocialiser et ne pas leur permettre de rentrer en brousse tout de suite. Et pendant ce temps, ils seront en train d'avoir leur salaire. Et peut-être en 18 mois à 24 mois, ils auront accumulé un capital et peut-être avec un projet qui peut financer les activités génératrices de recettes de ces démobilisés-là qui sont en fonction, et ça va permettre peut-être d'évacuer petit à petit. J'ai soumis ces idées à la Banque mondiale, qui avait dans sa gibecière près de 80 millions de dollars. J'ai dit, mais avec les 80 millions de dollars, on peut occuper tous les démobilisés de l'espace Est par des projets à impact visible qui les maintiennent sur les chantiers pendant autant d'années, et ça va leur permettre, ça va permettre à ce moment-là l'État d'asseoir son autorité pour que, même si ces gens voudront un jour revenir, ils trouveront que l'État s'est déjà consolidé, ils n'auront plus d'espace où ils vont encore entrer dans les groupes armés. C'est donc un schéma que je propose à qui veut m'entendre pour qu'on puisse les piloter.
Alors pour finir, le Grand Nord est toujours en proie de l'épidémie à virus Ebola et pendant ces temps, la population semble être hostile à la riposte. Est-ce que vous pouvez nous dire un message de préférence en Swahili pour que la majorité de la population vous entende pour l'appeler à soutenir la riposte contre Ebola?
Oui, nous avons eu à suivre cette question d'Ebola. Évidemment, il y a eu un problème de communication au départ. Mais ce que je veux dire en Swahili, ni Kouandougou etu, ou à Nord Kivu, na Ituri, na fasi yote ya kwamba, malali ya Ebola inaua sana. Kwa hiyo na wasihi sana, tuweze kufata yale maelezo wanatueleza, alafu pamoja tukaojiunga mikono kwa mkono, tutaweza kupiganisha malali hii, na itaweza kuisha bila tatizo.
Monsieur Julien Paluku, je vous remercie.
Merci.
Fin de grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été préparée avec le concours des Alain Irung et Kéline Kouté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Michel Kifin Nangoy vous l'a présenté. Rendez-vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.